Bonjour à chacun. Je suis très heureux d'être parmi vous pour la première fois et de faire connaissance avec votre communauté. Je m'appelle Étienne Lermeneau. Je suis pasteur de la Fédération des Églises évangéliques baptistes et je préside le Conseil national des évangéliques de France pour quelques jours encore, puisque je vais être remplacé par le pasteur Christian Blanc le 4 juin. Si je devais me présenter en deux mots, je dirais que je suis missionnaire dans mon pays et que je fais le plus beau métier du monde. Missionnaire dans mon pays parce que j'ai reçu l'appel à la mission à l'âge de 13 ans, un an après ma conversion. Mais le Seigneur m'a conduit, malgré un séjour au cœur de l'Afrique subsaharienne, à l'extrême nord du Cameroun, le Seigneur m'a conduit à penser qu'il fallait commencer la mission par mon propre pays, où tant de missionnaires venaient. Et je fais le plus beau métier du monde parce que j'enseigne. Et vous savez, enseignant, c'est un métier formidable. Surtout quand vous avez comme élève des gens qui payent pour venir. Parce que ça veut dire qu'ils ont envie. Et vous savez, en matière d'enseignement, la motivation change tout. Mais non seulement j'ai la chance de faire ce beau métier, mais en plus ce que j'enseigne, ce sont les vérités éternelles qui se trouvent dans l'Écriture. Alors, quel plus bel enseignement possible ? Et j'aimerais juste vous faire entrer un tout petit peu dans mon quotidien. Nous avons reçu il y a 4 ans un étudiant volontaire. Nous avons comme ça des étudiants qui font des services, en échange, nous les logeons, nous les nourrissons et ils font quelques cours. Cet étudiant, Benoît, jeune Français, d'habitude ce sont plutôt des étrangers, n'avait jamais rien fait de sa vie. Il vivait la nuit, il dormait le jour, et à part McDo où il avait fait quelques petits boulots, il était en échec complet. Et ce garçon, honnêtement, quand il est arrivé, nous nous sommes dit « ouille, 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 qu'est-ce que nous allons en faire ?» Eh bien, figurez-vous que motivé par l'étude de la parole de Dieu, il s'apprête, après 4 ans, à recevoir son diplôme en juin. Alors, ce n'est pas devenu un étudiant brillant, mais c'est la première fois de sa vie qu'il réussit quelque chose sur le plan de ses études, parce que le Seigneur l'a appelé à le servir. Et nous voyons ce genre de choses. Alors, ce n'est pas des anges que j'ai. Il y a aussi des soucis, mais c'est un très beau métier. J'arrête là en ce qui me concerne. Et je voudrais vous dire un tout petit mot sur ce que j'ai dit hier à ceux qui ont pu assister au séminaire. Dieu ou Mammon, qui est notre maître ? J'ai fait un parcours biblique où j'ai montré que la richesse est une bénédiction dans l'Ancien Testament, mais que cette bénédiction est évidemment entachée par le péché, de telle sorte que il n'y a pas de lien automatique entre la vie pieuse et juste que peut mener un homme ou une femme et sa richesse. Job, le juste, a été terriblement éprouvé. Et j'ai montré que si c'était une bénédiction, la richesse l'était parce que nous étions appelés à la partager. Et la deuxième chose concernant le Nouveau Testament, c'est que dans le Nouveau Testament, nous sommes appelés à vivre libres vis-à-vis de l'argent, parce que l'argent est une puissance et qu'il nous faut apprendre à renverser Mammon, parce que c'est ainsi que Jésus désigne cette puissance. Je vous invite à aller au cœur de cet enseignement et à lire avec moi dans Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 19. Jusqu'à la fin du chapitre. Matthieu 6, à partir du verset 19 et jusqu'à la fin du chapitre. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent ou des cambrioleurs qui perce les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles profondes ténèbres te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant « Qu'allons-nous manger ou boire ? Avec quoi allons-nous nous habiller ? La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture ? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits ? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas des provisions dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet ? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi, avec tant d'élégance, la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même ? Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? » ou « Que boirons-nous ? » ou « Avec quoi nous habillerons-nous ? » Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre première préoccupation. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je vous invite à la prière. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Et nous avons besoin d'être sanctifiés par elle. Que ton esprit qui l'a inspiré visite nos cœurs et nous permette de vivre de cette parole. En Jésus, amen. Lao Tzu, fondateur du taoïsme, on est là au 6e siècle avant Jésus-Christ, racontait une histoire. L'histoire de Tzi, un homme avide d'or. Un matin, après s'être habillé et avoir mis sa casquette, Tzi est allé au marché et s'est rendu directement vers l'étalage du changeur. Après avoir regardé pendant un temps l'or changer de main, il s'est précipité sur le métal pour le saisir et s'enfuir. Ayant évidemment perpétré son forfait aux yeux de tous, il n'a pas été difficile à la police pour mettre la main sur lui. Et le policier chargé de son arrestation a demandé à Tzi, « Mais enfin, Tzi, comment as-tu pu voler cet or en pleine journée, au milieu du marché, et penser t'échapper ?» Tzi a répondu, « Mais pendant que je prenais l'or, je ne voyais pas les gens, je ne voyais que l'or. Plus de 20 siècles plus tard, Tsi est toujours aussi avide d'or, au point de le saisir en plein jour. Mais au lieu d'une casquette, il a plutôt un costume trois pièces et ne se contente plus d'une poignée de métal jaune. À l'aide d'une ingénierie financière sophistiquée et par écran interposé, il échange chaque jour plusieurs milliers de milliards de dollars. Ça vous dit rien ? Moi non plus. Donc plus de 90% de ces sommes ne correspondent, mes amis, ni à des échanges de biens, ni à des échanges de services, à de la spéculation pure. Alors vous vous souvenez peut-être d'un certain Madoff, un tsi de notre temps, qui a escroqué toute une série de gens pour la bagatelle de 65 milliards de dollars. Eh bien, les tsi de ce monde continuent à pulluler, ils sont souvent moins spectaculaires. Mais mes amis, après tout, je n'ai pas envie de parler beaucoup plus de la finance, mais de l'Église. Parce que des tsi, il y en a aussi dans le christianisme. Désireux de réussir, ils ont troqué l'évangile de la croix pour celui du succès et promettent la bénédiction, surtout financière, à ceux qui les suivent. Mais j'ai toujours dit qu'en fait, ils prêchent pour leur poche. Leurs motivations sont diverses, revanche sur une vie de galère, souci de paraître, désir sincère mais mal orienté d'obéissance au Seigneur. Qu'il s'agisse du monde des finances ou de celui des églises, c'est la même réalité qui s'infiltre partout et qui prend les commandes, l'argent. Jésus a perçu le danger et a prêché vigoureusement contre sa puissance, dans le passage en particulier que nous venons de lire. Je vous propose d'aller à la rencontre de trois vérités surprenantes que Jésus fait entendre ici, sous les titres suivants. Un opposant inattendu, une réalité universelle, personnifiée, excusez-moi, et une dépendance universelle. Un opposant inattendu. La première surprise, à mon sens, c'est que Jésus, dans ce texte majeur du Sermon sur la montagne, désigne nommément un maître qui fait concurrence à son père, et ce n'est pas Satan, c'est Mammon ou l'argent. Il parlera bien du mal ou du malin dans le « Notre Père » quelques versets avant, avertira contre les faux prophètes au début du chapitre 7, n'hésitera pas à bousculer nos trompeuses certitudes sur nous-mêmes en radicalisant les exigences de la loi au chapitre 5, mais sa salve la plus puissante, il la réserve à un adversaire inattendu, l'argent. Et si j'ai lu les versets 19 à 34, c'est que je pense qu'il y a une unité dans tout ce passage. L'Ancien Testament, vous le savez, dénonce avec vigueur l'idolâtrie religieuse comme le grand risque, la grande tentation à laquelle est soumis le peuple d'Israël. Le Nouveau Testament nous met en garde contre l'adversaire de nos âmes qui cherche à nous dévorer et contre notre vieille nature qui veut laisser le péché régner. Mais, Jésus pointe ici une réalité qui certes n'est pas absente du reste du Nouveau Testament, mais contre laquelle il livre le discours le plus incisif et le plus développé. En parlant de maître à propos de l'argent, Jésus nous rappelle une vérité que nous peinons à entendre. L'homme, quoi qu'il prétende vivre libre et autonome, aime à se donner non pas un maître, mais des maîtres. Et la nature spirituelle ayant horreur du vide, quand il croit en avoir fini avec un Dieu, pour la plupart de nos contemporains, c'est 10 autres qui frappent à sa porte et accaparent sa vie et son esprit. Ainsi, l'homme vit dans une triple illusion. La plus ancienne, quasiment aussi vieille que l'humanité, c'est que l'homme se croit libre. Ayant transgressé l'ordre de Dieu à l'égard de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il pense être émancipé et avoir conquis de haute lutte sa liberté. Le discours mensonger du serpent, malgré l'évidence des conséquences de la chute, continue à l'habiter et il part des vertus de la liberté, sa condition d'esclave. C'est exactement le discours qu'on nous sert. Nous sommes libres. Libre de décider de notre naissance, libre de décider de notre mort, et entre les deux, d'à peu près tout ce que nous pourrions faire. Deuxième illusion, qui est un fruit de la première et qui a les accents du romantisme, l'homme s'imagine être jusqu'au jour du choix, conscient et déterminé, dans la confortable position d'un souverain qui reste parfaitement libre de ses mouvements et de ses décisions. Et parfois, nous prêchons les choses ainsi. Ainsi croit-il l'homme choisir et ses maîtres et l'heure de leur pouvoir. En réalité, mes amis, n'en est rien. L'homme ne choisit rien. Il subit l'asservissement du péché dès son entrée dans le monde et jusqu'à ce qu'il se soumette à Jésus-Christ. La troisième illusion, c'est que l'homme pense pouvoir ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire qu'il pense pouvoir servir plusieurs maîtres successivement ou même simultanément. La réalité, c'est que Dieu est jaloux et ne partage sa gloire avec aucun autre. Le vocabulaire que Jésus utilise ici est de l'ordre conjugal, où il haïra l'un et aimera l'autre. On est dans l'exclusivité. Il n'est pas possible, mes amis, sous peine de nier à Dieu sa place de souverain dans nos vies, de le cantonner à certains domaines et de lui interdire l'accès à d'autres. Vous connaissez cette parole de l'école du dimanche ? Il est seigneur de tout ou il n'est pas seigneur du tout. Il est seigneur de tout ou il n'est pas seigneur du tout. Pour le dire autrement, entre Dieu et l'argent, l'opposition est frontale et radicale. Il faut choisir. Mais peut-on se débarrasser de l'argent ? Et pourquoi Jésus parle de l'argent sous le terme, dans nos traductions plus anciennes, de « mammon » ? Et j'aimerais ici aborder la deuxième réalité, une réalité personnifiée. Alors j'ai longtemps cru que l'usage du mot « mammon » était une façon pour Dieu de désigner une divinité, et en fait, l'étude des textes m'a montré que ce n'était pas tout à fait exact. En fait, le mot « mammon » à l'origine signifie « possession » et ce n'est pas le nom d'un dieu païen. Il est souvent utilisé de façon négative, « mammon d'iniquité » ou « mammon de fausseté », mais il peut parfois être utilisé de façon neutre, à tel point que les commentaires, ce qu'on appelle les « targoums » juifs, commentant « Honore l'Éternel avec tes biens », vous vous souvenez de ce texte des Proverbes, disent « Honore Dieu avec ton mammon ». Cette constatation, qui semble solidement attestée, me conduit néanmoins à faire deux remarques. Cela n'empêche en rien le fait que Jésus a personnifié l'argent, car ce n'est pas qu'une question de nom utilisé, mais de réalité évoquée. Jésus dit « L'argent est un maître qui s'oppose à Dieu, que l'on peut servir et qui, en définitive, peut nous asservir. » Et deuxième remarque, cela signifie, et ça ne nous arrange pas vraiment, que ce n'est pas seulement le mauvais usage de l'argent qui est en cause, la corruption, l'avarice, la fraude, mais aussi, à certains égards, la richesse, les possessions. Comme on ne peut pas vivre sans argent, que Jésus ne l'a pas fait et qu'il n'évacue pas cette réalité de la vie des croyants, que faut-il conclure de cette manière qu'il a de personnifier l'argent ? Je vous fais trois propositions. Il me semble que Jésus indique ici que l'argent est quelque chose de vivant, dans le sens où il exerce un puissant attrait sur l'homme, au point de l'aveugler et de devenir un but en soi au lieu d'un moyen. Un but pour lequel, nous le savons, l'homme peut tuer ou se tuer. Hein, on se tue bien à la tâche, hein, parfois pour le salaire. Pensez à la parabole de l'homme insensé, qui dans son souci d'amasser toujours plus, perd de vue complètement le sens de la vie, et surtout que la vie a une fin. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté, dit Jésus. Il raisonnait en lui-même et disait, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de ceux qui accumulent des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Pensez aussi aux paroles désabusées mais pertinentes de l'Ecclésiaste. « Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez, et celui qui a de la richesse, qui aime la richesse, n'en profite pas. Encore de la fumée qui s'évanouit. Plus quelqu'un a de bien, plus nombreux sont ceux qui vivent à ses dépens. » C'est clair, hein ? Les riches ont beaucoup d'amis. Quel avantage en a-t-il, sinon, de contempler sa propre richesse ? L'argent exerce un attrait puissant. Deuxième remarque, cette personnification que Jésus fait indique aussi que ce n'est pas l'argent en lui-même qui pose problème, mais la convoitise qu'il suscite dans le cœur de l'homme. Comme dans le chapitre 5 de Matthieu, où Jésus réinterprète la loi à partir du dernier commandement de la convoitise, contre la convoitise, Jésus vise ici notre être intérieur. Notre cœur, d'où viennent, dit-il, les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les prostitutions, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Ce cœur qui est là où se trouve notre trésor, auprès du Seigneur, nourri par son amour, si c'est notre bien le plus cher, auprès de notre compte en banque ou de nos possessions, nourri par l'inquiétude, si c'est là tout notre centre d'intérêt. Autrement dit, mes amis, il n'y a pas de neutralité possible avec l'argent. Et l'argent peut nous posséder. Mais pas seulement quand nous en avons trop. Il peut aussi nous posséder quand nous n'en avons pas assez. Comme nous le verrons en troisième lieu, cet avertissement de Jésus débouche sur le problème de l'inquiétude de celui qui n'a pas assez pour vivre. Pas assez pour se vêtir, pas assez pour manger. Troisième remarque, l'argent est personnifié parce qu'il s'agit sûrement de l'idole la plus universelle qui soit. Il a emporté dans sa folie des hommes de tout temps et de toutes conditions, des païens et des chrétiens, des riches et des pauvres, des jeunes et des vieux. Et le monde dans lequel nous vivons en a fait son idole, à laquelle sacrifient des millions d'hommes, atteints d'une frénésie de consommation qui semble sans fin. Des hommes moins nombreux, appâtés par le gain, qui sont prêts à vendre leur âme pour amasser toujours plus. Vous savez, les temples de notre société, ce sont nos centres commerciaux. Oui, mes amis, c'est là que notre génération sacrifie. Vous avez déjà réfléchi à la terrible description que Jean nous livre de Babylone dans l'Apocalypse. Écoutez bien. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas recevoir votre part de ses plaies. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses injustices. Autant elle s'est glorifiée, plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuils. Parce qu'elle a dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un seul jour, ses plaies viendront, mort, deuil, famine, et elle sera consumée par le feu, car il est fort, le Seigneur, le Dieu qui l'a jugé. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, cargaison d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, des chevaux, des chars, des corps et des âmes d'hommes. Vous entendez ? Des corps et des âmes d'hommes. Le fruit mûr de la convoitise de ton âme s'en est allé loin de toi. Toutes les choses délicates ou éclatantes sont perdues pour toi et on ne les retrouvera plus. Est-ce que nous avons conscience que nos sociétés riches d'Occident produisent aujourd'hui un esclavage caché qu'on appelle le trafic humain, qu'il y a aujourd'hui une traite des femmes dans les quartiers de la gare en général, de la prostitution, parce que la convoitise et les moyens de cette convoitise existent dans notre société. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ne nous concerne pas, on n'est pas vraiment ces gens-là, je l'espère. Mais je voudrais arriver à la troisième réalité qu'annonce ce texte, et vous verrez que ça nous laisse guère d'échappatoire. Parce que Jésus aborde un troisième sujet, c'est la dépendance universelle. Parce qu'il débouche de cette « vous ne pouvez servir de maître » à quelque chose de beaucoup plus prosaïque. « Ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller ?» Vous avez remarqué, ici Jésus ne pointe pas la cupidité de celui qui veut amasser toujours plus de richesses, ni la légèreté de celui qui dépense sans compter. Il aborde l'anxiété de celui ou de celle qui se demande « mais de quoi demain sera fait ?» Or, qu'y a-t-il de plus commun dans l'humanité ? Vous connaissez l'histoire de ce petit garçon qui entend lire ce texte que nous avons lu par sa monitrice d'école du dimanche. Et quand il entend la question de Jésus, qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait ? La monitrice fait un temps d'arrêt, le petit garçon ne peut se retenir. « Maman !» Parce qu'il la voit s'inquiéter pour tout et pour tous, pour le bien de la famille. Alors si nous réfléchissons quelques instants, nous mesurons à quel point les propos de Jésus sont radicaux et dérangeants. D'abord, Jésus sait que nous sommes habités par l'inquiétude. En la dénonçant, il va en faire la racine du problème qui nous habite. Car vous savez, la cupidité, la légèreté ou l'inquiétude ont tous le même ressort. C'est la peur de mal vivre et donc de mourir. Voilà ce qu'il y a derrière nos inquiétudes. C'est parce qu'il veut assurer son avenir que le riche insensé construit de nouveaux greniers, et c'est parce qu'il veut oublier sa condition humaine mortelle que le fils prodigue dépense tous ses biens. Avez-vous remarqué comment Jésus se plaît à pointer dans ses propos les inquiétudes les plus légitimes et les plus universelles ? La nourriture, la boisson, le vêtement. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de nous enfermer tous dans la même culpabilité pour mieux nous en libérer. Deuxième remarque. Il traduit ses inquiétudes légitimes et fondamentale en question spirituelle. S'inquiéter pour la nourriture et le vêtement, c'est méconnaître la providence divine visible dans la nature. Les oiseaux et les lys ne s'inquiètent pas pour leur nourriture ou pour leurs vêtements, et ils ne manquent de rien. Et c'est oublier aussi l'omniscience du Père et son amour. Il sait ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi il porte un jugement très dur sur ceux qui s'inquiètent. Il dit, un, qu'ils ont peu de foi, deux, qu'ils sont des païens, comme des païens. Excusez du peu, mais ce n'est pas très élogieux. Et je me demande si nous sommes prêts à entendre le jugement du Seigneur sur nos inquiétudes. Ne soyez pas comme les païens qui s'inquiètent pour ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire et comment ils vont s'habiller. Enfin, dernière remarque, il en fait une question décisive pour la foi et nous oblige à faire un choix. Où le royaume de Dieu est au centre de nos préoccupations. Et il nous dit, si vous faites du royaume ce qui est la première de vos préoccupations, alors tout ce qui vous est nécessaire vous sera donné en plus. Ou ce sont les choses de la vie qui prennent le dessus. Mais alors elles étoufferont la semence de l'évangile qui a été déposée en nos cœurs et montreront que Dieu n'est pas notre Seigneur. Alors mes amis, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'échappatoires. Tout montre que l'affirmation du Seigneur est très sérieuse. Mais comment l'entendre ce matin sans être soit écrasé et paralysé par la culpabilité, ou bien en étant prêt à relativiser l'exigence du Seigneur? Alors je vous fais quatre suggestions simples. Je pense que ce texte est un appel à oser faire le point concrètement sur l'usage que vous faites de vos biens et de votre argent. La deuxième suggestion, c'est si vous êtes marié, apprenez à faire cet exercice en couple. Car il ne s'agirait pas, si c'était nécessaire, de modifier vos habitudes sans avoir pris le temps d'en parler avec votre conjoint et d'avoir trouvé ensemble une solution commune. Il est important que vous sachiez que ces questions, nous ne sommes pas égales devant ces questions. Certains sont détachés facilement des questions matérielles et financières, et pour d'autres, c'est une inquiétude rivée au cœur. Et tout cela tient beaucoup à notre itinéraire. Troisième suggestion, souvenez-vous qu'avec le jugement, Jésus a prévu toujours la délivrance. Le Saint-Esprit qu'il fait habiter en nos cœurs nous rend capables de progresser et d'obéir aux ordres du Seigneur. C'est saint Augustin qui disait que Dieu donne ce qu'il ordonne. Et concernant le sentiment de culpabilité, je rappelle toujours, en tant que pasteur, aux personnes que j'accompagne, que quand le Seigneur nous permet de réaliser notre péché, c'est pour que nous le confessions et que nous en soyons délivrés, pas pour nous garder prisonniers. Celui qui veut nous garder prisonniers de la culpabilité, c'est l'adversaire de nos âmes, qui lui est un accusateur et se plaît à nous dire « tu t'en sortiras pas ». Dernière suggestion pratique. Il faut bien comprendre ce que Jésus veut dire. Ne pas s'inquiéter pour la nourriture, la boisson et le vêtement ne veut pas dire vivre comme une cigale. Si ça vous rappelle quelque chose, la cigale et la fourmi. Ailleurs, le Seigneur nous invite à bien réfléchir avant de choisir de le suivre. Et l'apôtre, je l'ai dit hier, nous invite à ne pas nous exposer à la détresse pour le soulagement des autres. Donc il ne s'agit pas de ne pas compter, mais il s'agit de ne pas nous inquiéter au point que les choses du royaume de Dieu deviennent secondes. Il me reste pour conclure à vous raconter une histoire. L'histoire d'un homme à qui Dieu donne 10 bananes. Il était une fois un homme qui n'avait rien. Et Dieu lui donna 10 bananes. Il lui en donna 3 pour sa nourriture. Il lui en donna 3 pour qu'il puisse vendre afin de se procurer un abri contre le soleil ou la pluie. Il lui en donna 3 afin qu'en les monnayant, il ait de quoi se vêtir. Il lui en donna 1 qu'il puisse rendre à Dieu en signe de reconnaissance pour les 9 autres. L'homme mangea 3 bananes. Il en vendit 3 en vue de se trouver un abri contre le soleil ou la pluie. Il en échangea 3 contre les vêtements nécessaires. Puis il regarda la 10e et elle lui parut plus belle et plus savoureuse que toutes les autres. Il savait que Dieu la lui avait donnée afin de pouvoir prouver sa gratitude en la rendant. Mais la 10e banane semblait tellement plus belle et plus savoureuse. Oh, il se dit qu'après tout, Dieu possède déjà toutes les bananes du monde. Ainsi, il mangea la 10e banane et il rendit à Dieu la peau. Dieu vous a donné assez de bananes pour pourvoir à vos besoins, plus une, avec laquelle vous pouvez lui exprimer votre gratitude. Il vous reste à choisir. Allez-vous lui donner la plus belle et la plus savoureuse de vos bananes, ou bien voulez-vous simplement lui donner la peau ? Amen. Je vous invite à la prière.